ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois pour la seconde fois Lilian Lacourpaille. Merci Lilian de revenir nous voir dans le podcast.
Merci, c'est super. C'est toujours un plaisir.
C'est cool de t'avoir. On va passer un bon moment ensemble. On va continuer à parler avec Lilian suite au premier épisode que vous avez peut-être vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous engage quand même à le regarder parce qu'il cadre bien le thème dont on va parler de manière un petit peu plus pratique, un peu plus concrète aujourd'hui, qui est celui de la coordination musculaire. Spécialité de Lilian puisqu'il est enseignant-chercheur à la fac de Nantes. Crossfitter à ses heures perdues et taekwondoiste à la retraite.
Voilà, c'est bien résumé.
Super, alors du coup on avait largement balayé la nécessité de maîtriser ces concepts de coordination musculaire individuelle avec des profils complètement différents, notamment sur les ischio-jambiers, qui est un groupe musculaire particulièrement intéressant à considérer, avec des gens qui, selon les tâches qu'on leur impose, de la marche à l'haltérophilie en passant par un mouvement mono-articulaire très simple comme une flexion de genou, qui mettent en œuvre des stratégies d'activation musculaire au sein même d'un même groupe musculaire comme les ischio-jambiers, complètement différents. Et donc, pour un même mouvement, on va avoir des gens qui vont utiliser plus le biceps fémoral que le semi-tendineux, par exemple, et vice-versa sur certains autres mouvements. Donc, on va avoir vraiment une nécessité de compréhension fine et d'analyse de chacun de nos athlètes pour prendre des bonnes décisions préventives, mais aussi de performance. Et du coup, la question que se pose tout le monde après avoir entendu et compris cette nécessité théorique-là, c'est comment entraîner maintenant, comment faire en sorte de faire le moins d'erreurs possible et de couvrir l'ensemble des besoins individuels de manière collective.
Voilà. Je pense que, en tout cas, de mon point de vue, la variété, c'est quelque chose de très important parce que cette variété, elle va permettre de stresser finalement l'individu. Et c'est cette réaction au stress qui va générer des adaptations. Et quand on expose un individu toujours au même stress, on sait, c'est des théories de l'entraînement, qu'il n'y a plus d'adaptation. Donc le fait de varier la gestuelle, de varier les configurations articulaires, les niveaux d'activation, les longueurs musculaires, éventuellement les intentions, la complexité du mouvement, tout ça, je pense que c'est des choses qui vont enrichir l'athlète.
Ouais, c'est ce qu'on avait un petit peu commencé à présenter dans l'épisode précédent. C'est vrai que beaucoup de gens se réfèrent à des écoles, à des méthodes, à des concepts extrêmement cadrés, ce qui a le mérite de rassurer, ce qui a le mérite de donner de la constance, ce qui a l'inconvénient justement peut-être d'exclure certains groupes, certains clusters de nos effets efficaces ou préventifs. Et donc il va falloir un tout petit peu reconsidérer ça et peut-être sortir des grands concepts. Si on est dans le courant de l'entraînement fonctionnel tous azimuts, se dire attention, il faut peut-être que je revienne un peu sur de l'analytique et sur de l'analytique variée. Puis à l'inverse, si je suis que sur de l'analytique, il va peut-être falloir repenser la chose de manière un petit peu plus globale, parce que les blessures aux ischio-jambiers sont rarement exclusivement le fait des ischio-jambiers.
Bien sûr.
Et sont souvent dans une équation beaucoup plus complexe. Alors du coup, Lilian, tu parlais de variété d'angle, par exemple, de travail. Finalement, très corrélé à la variété de longueur de sollicitation. C'est un truc hyper important, ça.
Ouais, ça, c'est super important. Et en fait, quand on regarde finalement ce qui est mis en place en prévention de la blessure aux ischios, souvent, on utilise le nordique. Alors moi, je ne suis pas prépa physique, je ne suis pas...
L'exercice, c'est le nordique armstring. Vous savez où vous êtes bloqué par les chevilles et vous freinez une descente en position de pompe alors que vous êtes à genoux.
Voilà, exactement. En fait, en général, il est pratique cet exercice parce que souvent, il ne nécessite pas de charge additionnelle pour imposer un niveau de résistance élevé à l'individu. Donc souvent, à poids de corps, cet exercice, finalement, c'est un exercice qui est supérieur
à
la 1RM. Parce que l'individu n'est pas capable de réaliser l'amplitude complète de mouvement. Donc c'est ce qu'on observe. Et en fait, c'est dommage parce que du coup, bah, l'athlète va travailler à des longueurs musculaires qui sont intermédiaires courtes, alors que s'il allait sur l'amplitude complète, il travaillerait à des longueurs intermédiaires. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve dans le sprint, etc. Donc, il y a un aspect de spécificité au niveau de la longueur du muscle. Donc, ça, c'est dommage. La deuxième chose, c'est que les études montrent que le fait de réaliser le nordique sur une amplitude partielle, ça recrute principalement, on active principalement le semi-tendineux, qui est un muscle qui est très peu lésé, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Et le fait de réaliser la deuxième moitié, donc la deuxième, les deuxièmes de 50 jusqu'à 100% de l'amplitude, eh bien, permet de recruter le biceps fémoris qui est lui très touché par la blessure. Donc pour avoir une prise en charge complète, finalement, des ischio-jambiers, eh bien, il est important de réaliser ce mouvement sur l'amplitude complète.
Alors, je partage complètement ton point de vue. C'est-à-dire que je constate à l'INSEP et ailleurs que lorsque des gens font des Nordic Hamstring, s'ils en font déjà, bah effectivement, on a une belle phase de freinage en début de mouvement, assez intense, avec un beau gainage, une belle extension de hanche, une vraie intention de. Et à partir de la moitié du mouvement, voilà, tout s'écroule, on se laisse tomber et il y a même un relâchement des ischio-jambiers. Quand bien même il y aura encore un petit peu d'activation, on n'est pas du tout dans des niveaux de force comparables. Et du coup, bah, c'est dommage pour les deux raisons que tu as citées, une raison d'activation spécifique du biceps fémoral et une raison d'activation dans des longueurs. D'efficacité motrice et du coup de génération de blessures qui nous intéresse. C'est un peu dommage parce que c'est du coup la richesse de l'exercice qu'on est en train de zapper uniquement parce que on est surchargé en fait. Hein.
Complètement.
Ce serait aussi aberrant que de faire de la prévention de l'épaule en rotateur externe sur un mouvement de rotateur à charge maximale.
Complètement, ouais.
Alors que justement, on travaille sur des muscles qui sont faibles, fragiles, et qu'on cherche justement à les faire raccrocher les wagons, on prend le problème complètement par le mauvais bout de la raison.
Surtout que c'est finalement assez simple, il suffit d'avoir une assistance, ça peut être un élastique, ça peut être un harnais rattaché à une poulie derrière, et puis on gère comme ça le niveau d'assistance, et ça nous permet de travailler finalement de fixer, mais on peut travailler aussi RM, on peut évidemment progresser comme ça
Bien
jusqu'au
sûr, bien
RM.
sûr. Les power bands sont hyper adaptés. Moi, j'utilise énormément les power bands pour ça. Donc, on accroche le power band à une barre de traction, par exemple, ou un espalier. Espalier où on est justement raccroché par ses pieds. Et du coup, bah, ça freine la descente. Ça nous allège le poids de corps artificiellement. Et ça nous permet de travailler en amplitude complète. Parce que c'est
Exactement,
bien ce qu'on veut.
c'est ça.
Et donc, de moduler la charge. Mais du coup, cette fois-ci, à la baisse, puisque par essence, c'est un mouvement qui sollicite, comme tu le disais, plus du 1 RM, donc on travaille
De manière générale.
de
Après, il
manière
y a des
générale,
athlètes qui
ouais,
sont
bien
très
sûr,
forts,
bien
et
sûr.
évidemment, mais
Tout
oui, de
dépend
manière
de si
générale.
c'est des grands freinateurs, certains rugbymen, on le sait, on sait ces gros, gros ischios qui sont capables du coup de générer énormément de force. Bon, ils sont plutôt légers, certains joueurs. Donc du coup, finalement, ce rapport poids-puissance fait d'eux des exceptions, mais l'immense majorité des gens, effectivement, va être
Complètement,
extrêmement challengé par ce déficit de force ou ce surpoids par rapport au niveau de force qu'ils peuvent générer, quoi. Ouais, c'est intéressant. Il y a un autre principe, j'imagine, pour arriver à explorer un petit peu plus les différentes portions musculaires, mais c'est vrai sur chaque mouvement. On va simplement rester sur les ischio-jambiers parce que c'est sans doute une des priorités préventives et un des exemples qui permet le mieux de comprendre les principes qu'on est en train d'exposer, c'est aussi l'orientation des segments, c'est-à-dire plus ou moins de rotation de hanche, plus ou moins d'ouverture de genoux, on peut jouer sur certains facteurs comme ça.
Oui, ça aussi, ça joue sur la manière d'activer les différents ischio-jambiers. Ouais. Donc, quand je mets de la rotation, quand je réalise le mouvement et que je combine ça à une rotation interne de hanche, eh bien, je vais activer de manière plus importante mon semi-membraneux si je fais une rotation externe. Ça met de la complexité dans le mouvement, donc pourquoi pas de temps en temps utiliser ce levier-là.
Ça, c'est très important parce que ce que tu sais peut-être pas, toi qui n'es pas dans les milieux fitness conventionnels, on va dire que le crossfit c'est quand même quelque chose à part entière, c'est qu'on apprend souvent dans les diplômes BPJEPS et avant les BE, on apprend souvent aux gens à garder les pieds parallèles sur les machines guidées, à rester le plus parallèle possible. Et j'ai toujours challengé un peu cette question-là parce que ma question, c'était Pourquoi? On a peur de quoi, en fait? De travailler en légère ouverture, écartement des pieds par rapport au positionnement des genoux. Je veux dire, c'est pas comme si on mettait le genou en flexion latérale, puisqu'il y a quand même l'ouverture de hanche qui nous permet d'orienter le travail. Ou à l'inverse, d'ouvrir un peu plus les genoux et de faire une rotation du coup plutôt externe de hanche, pour le coup. Les pieds en canard, pour parler simplement. Et du coup, très très jeune, moi, j'ai perçu cette nécessité de travailler sur les différentes portions des ischio-jambiers, de ne pas penser les ischios comme l'ischio, mais bel et bien un groupe qu'il va falloir adresser de manière un peu... Et c'est, les grands spécialistes de ça, tu sais qui c'est les grands spécialistes de l'analytique, ce sont les culturistes.
Ouais, c'est clair, ouais, complètement.
Et tu vois, c'est pareil, les culturistes, on les a un peu raillés, on les a un peu sortis de l'équation prépa physique, surtout avec la vague polyarticulaire globale, ultra fonctionnelle, crossfit, gym fonctionnel, etc. Et c'est une erreur, parce qu'eux, ils savent, à un moment donné, comment aller chercher pile poil le vaste, le vaste médial ou pile poil le vaste interne, juste en travaillant sur les orientations. Et au-delà de l'esthétisme qu'eux poursuivent, évidemment, nous, on a un intérêt de performance et de prévention, dont on parlera dans un autre épisode. C'est passionnant. Et en termes de tempo, tu as des préconisations aussi, j'imagine, qui rejoignent un peu ce qu'on se disait là.
Ouais. Ben, en termes de tempo, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie progressivité. Et donc, évidemment, au départ, je pense qu'il faut que ce soit plutôt un tempo avec à peu près sur la phase excentrique qu'on ait 4-5 secondes de descente, que ce soit sur le nordique ou sur le soulevé de terre jambes tendues, avec une maîtrise du mouvement. Et puis, au regard de la spécificité de la pratique, finalement, quand on est en situation de sprint, les contraintes qu'ils sont... Enfin, les articulations sont mobilisées à des grandes vitesses. Par exemple, on a des pics de vitesse angulaire à peu près de l'ordre de 1000 degrés par seconde au genou et de 500 degrés par seconde à la hanche. Donc si on veut finalement se rapprocher un petit peu de ce qui se passe pendant l'activité, eh bien il faut, je pense, de temps en temps aller mettre un peu de vitesse. Donc ça nécessite de réfléchir, de mettre l'athlète dans des situations sécuritaires. Mais je pense qu'il faut aussi l'exposer à des situations où le muscle doit se contracter à des vitesses élevées. C'est ce qu'on, de temps en temps, on préconise de faire de la vitesse cyclique. Donc, soit des exercices de pliométrie, par exemple, ou avec des bandes, et on vient mettre les pieds, on travaille la vitesse cyclique. Alors, tout le monde n'est pas là, tout le monde ne l'utilise pas, mais je pense que de temps en temps, ça peut être intéressant.
Mmh. Donc, je disais à Lilian, hein, on tend un power band. Et du coup, on a les pieds posés dessus si on est allongé sur le dos, par exemple, donc un petit peu plus haut. Et du coup, on va faire des battements en se servant de l'élastique pour justement faire de la survitesse. Ces paramètres de vitesse, on les a pas mal abordés avec Jean-Benoît Morin. Hein, vous les retrouverez largement développés dans les profils force-vitesse, soit sur le sprint dans le premier épisode, soit sur la musculation et donc principalement les squats sautés dans un épisode un petit peu... plus tard dans la progression des podcasts. Vous les retrouvez aussi dans mon webinaire consacré à la puissance et sur l'entraînement de ce qu'on a appelé avec JB l'hypervitesse. On a appelé ça l'hypervitesse d'abord parce qu'on est cool et qu'on trouvait ça cool et qu'on n'est pas très raisonnable. C'est surtout parce que la survitesse était déjà prise en termes de terminologie et que la survitesse est déjà un abus de langage. Puisque quand on travaille avec le poids du corps, comme tu le disais, c'est criant sur les hamstrings, les Nordic hamstrings, mais c'est vrai aussi sur du sprint, c'est vrai sur la course, même en descente. Tant qu'on a notre poids de corps à manœuvrer, on est dans des niveaux de force déjà non négligeables, qui vont peut-être être exprimés à différents niveaux de vitesse, mais du coup, on va être plutôt sur de la puissance orientée, sur la vitesse, que sur ce qu'on appelle de la survitesse. Tout au mieux, faisons-nous de la vitesse, et c'est déjà pas top. Donc du coup, ce qu'on décrit nous comme de l'hypervitesse, c'est ce que tu préconises là, c'est-à-dire à un moment donné, trouver des moyens de travailler en antigravité, où on va retirer du poids de corps, retirer de la contrainte mécanique pour aller sur la vitesse de raccourcissement maximale et d'allongement maximal aussi, si on travaille en fréquence. Et donc aller s'approcher de V0, c'est la vitesse à zéro force. Quoi.
Complètement, oui.
Ça, c'est vraiment important. Il en va de la performance, il en va de la prévention aussi. Et du coup, sur les Nordic Hamstring, pour rester sur notre exemple, clairement, le jeu avec les power bands, c'est fantastique parce qu'on peut se décharger presque intégralement du poids de corps avec un élastique qui, peu à peu, va même nous catapulter dans l'autre sens. Hein. Ouais, ouais. C'est même assez ludique à faire, en vrai. Les athlètes, ils aiment bien faire ces jeux-là. Hein. Ouais. En général, ils s'y prêtent bien. y a quand même une nécessité d'intention et de coaching.
Ah, mais ça, c'est sûr que ça doit être encadré, on doit être familiarisé à ce type d'exercice de renforcement, d'entraînement contre résistance, enfin, contre des niveaux de résistance qui sont très faibles, justement. Et non, je pense que c'est des choses qui sont importantes à intégrer dans la prise en charge. Et finalement, c'est souvent ce que dit Jean-Benoît, et je suis complètement d'accord, c'est que on catégorise ça comme de la prévention, mais finalement, c'est aussi des choses qui peuvent se transférer à la gestuelle et servir la performance.
Ouais, on augmente nos chances de transfert, hein, clairement, puisque, comme tu le disais, ne serait-ce que les vitesses angulaires en course, in situ, sont telles que pour s'en rapprocher, il va vraiment falloir. Et donc, c'est finalement une des clés du transfert de ce qu'on fait dans le gym sur le terrain, c'est la spécificité de sollicitation. Donc, si la spécificité, c'est 500 degrés, c'est ça qu'il faut aller chercher.
Voilà, tendre vers ça. Après, on sait que c'est pas facile. Après, il y a aussi la littérature scientifique qui nous indique que dans la prévention, la force maximale excentrique, donc forcément à vitesse lente, pour des niveaux de force maximaux, eh bien, c'est elle qui va nous. Elle nous indique quand même assez. Enfin, elle nous indique quand même relativement bien si un athlète est à risque ou pas, même si c'est à nuancer tout ça. Donc, du coup, on a plutôt tendance à mettre ça dans les contenus de prévention. Ce qui est plutôt bien parce qu'on regarde la spécificité. Mais par contre, c'est comme on n'est pas capable d'évaluer la force à des vitesses très élevées, proches de l'activité, ben du coup, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire en prévention. C'est pas parce qu'on ne le teste pas et qu'on ne l'a pas identifié comme un facteur de risque, c'est juste parce que méthodologiquement, c'est dur à mettre en place.
Bien sûr, bien sûr. Si je nous résume, pour tester les choses, puisque aujourd'hui, évidemment, on n'a pas de laboratoire magique dans la poche, on n'en est pas là, ça viendra très vite. À mon avis, les EMG intégrés à l'iPhone, ça peut aller très très vite. Mais en tout cas, d'abord, on observe éventuellement des stagnations, des paliers de performance sur les mouvements principaux en l'occurrence de flexion de genoux, puisqu'on parle de cet exemple-là, mais c'est vrai pour tout. On teste analytiquement les niveaux de force dans différentes configurations d'ouverture et de fermeture. Ça nous donne une température, des indices. Dans tous les cas, pour être sûr de limiter les erreurs individuelles, on essaye de couvrir une variété de sollicitations importantes. On sait par tes travaux, en tout cas au niveau des ischio-jambiers, que stiff leg deadlift, les soulevés de terre, jambes raides et combinés au Nordic hamstring couvrent, pour l'immense majorité de la population, les trois muscles ischio-jambiers.
Complètement.
Et ensuite, donc, on intègre aussi de la variété sur la longueur
Bien sûr.
et sur la vitesse d'un
Sûr.
raccourcissement pour être sûr de pouvoir travailler sur l'ensemble de l'angulation de freinage de nos ischio-jambiers, aller chercher spécifiquement le biceps fémoral qui est le plus touché, le plus lésé, et pouvoir restituer des angulations, des vitesses de segments et d'angles articulaires proches
De la
de
pratique.
la pratique. Écoute, c'est hyper clair. Merci d'être venu partager ça avec nous.
Plaisir.
Je pense que ça va vraiment aider tous les coachs et les kinés qui nous écoutent. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les travaux de Lilian. Hein. Il partage énormément. Vous savez qu'il travaille pour le diplôme de kiné de la fac de Nantes.
DUKS Nantes, ouais, diplôme
DUKS.
universitaire de kiné du sport de Nantes.
Si vous googlez ça, vous tombez directement sur un site sur lequel il y a de l'infographie, des contenus que tu vas enrichir au fur et à mesure d'ailleurs. Puis vous le retrouvez sur Twitter aussi, Lilian Lacourpaille, ça c'est facile. Quant à BD Podcast, vous savez que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming hein, que vous connaissez très bien, Spotify, Apple, Google. Si vous en voulez plus, vous retrouverez cet épisode qui est issu d'une trilogie sur le e-campus de transfert. Donc allez y faire un tour, ces trois épisodes sont déjà disponibles. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.